Chapitre 7. Le traité de l'aiguille. Il est 4 heures du matin. Isidore n'est pas rentré au lycée. Il n'y rentrera pas avant la fin de la guerre sans merci qu'il a déclarée à Lupin. Cela, il se l'est juré tout bas, pendant que ses amis l'emportaient en voiture, tout défaillant et meurtri. Serment insensé. Guerre absurde et illogique. Que peut-il faire, lui, enfant isolé et sans armes, contre ce phénomène d'énergie et de puissance? Par où l'attaquer? Il est inattaquable. Où le blesser? Il est invulnérable. Où l'atteindre? Il est inaccessible. 4 heures du matin. Isidore a de nouveau accepté l'hospitalité de son camarade de Janson. Debout devant la cheminée de sa chambre, les coudes plantés droits sur le marbre, les deux poings au menton, il regarde son image que lui renvoie la glace. Il ne pleure plus. Il ne veut plus pleurer, ni se tordre sur son lit, ni se désespérer comme il le fait depuis 2 heures. Il veut réfléchir, réfléchir et comprendre. Et ses yeux ne quittent pas ses yeux dans le miroir, comme s'il espérait doubler la force de sa pensée en contemplant son image pensive, et trouver au fond de cet être-là l'insoluble solution qu'il ne trouve pas en lui. Jusqu'à 6 heures, il reste ainsi. Et c'est peu à peu que, dégagé de tous les détails qui la compliquent et l'obscurcissent, la question s'offre à son esprit toute sèche, toute nue, avec la rigueur d'une équation. Oui, il s'est trompé. Oui, son interprétation du document est fausse. Le mot « aiguille » ne vise point le château des bords de la Creuse. Et de même, le mot « demoiselle » ne peut pas s'appliquer à Raymond de Saint-Véran et à sa cousine, puisque le texte du document remonte à des siècles. Donc, tout est à refaire. Comment ? Une seule base de documentation serait solide. Le livre publié sous Louis XIV. Or, des 100 exemplaires imprimés par celui qui devait être le masque de fer, 2 seulement échappèrent aux flammes. L'un fut dérobé par le capitaine des gardes et perdu. L'autre fut conservé par Louis XIV, transmis à Louis XV et brûlé par Louis XVI. Mais il reste une copie de la page essentielle, celle qui contient la solution du problème, ou du moins la solution cryptographique, celle qui fut portée à Marie-Antoinette et glissée par elle sous la couverture de son livre d'heures. Qu'est devenu ce papier? Est-ce celui que Beautrelet a tenu dans ses mains et que Lupin lui a fait reprendre par le greffier Brédoux? Ou bien se trouve-t-il encore dans le livre d'heures de Marie-Antoinette? Et la question revient à celle-ci. Qu'est devenu le livre d'heures de la reine? Après avoir pris quelques instants de repos, Beautrelet interrogea le père de son ami, collectionneur émérite, appelé souvent comme expert à titre officieux, et que récemment encore, le directeur d'un de nos musées consultait pour l'établissement de son catalogue.
« Le livre d'heures de Marie-Antoinette ? Mais il fut légué par la reine à sa femme de chambre, avec mission secrète de le faire tenir au comte de Fersennes, pieusement conservé dans la famille du comte. Il se trouve depuis 5 ans dans une vitrine. »
Dans une vitrine ?
Du musée Carnavalet, tout simplement.
Et ce musée sera ouvert ?
D'ici 20 minutes.
À la minute précise où s'ouvrait la porte du vieil hôtel de Madame de Sévigné, Isidore sautait de voiture avec son ami.
« Tiens, monsieur Beautrelet !»
10 voix saluèrent son arrivée. À son grand étonnement, il reconnut toute la troupe de reporters qui suivait l'affaire de l'aiguille creuse. Et l'un d'eux s'écria
« C'est drôle, hein? Nous avons tous eu la même idée. Attention, Arsène Lupin est peut-être parmi nous !»
Ils entrèrent ensemble. Le directeur, aussitôt prévenu, se mit à leur entière disposition, les mena devant la vitrine et leur montra un pauvre volume sans le moindre ornement et qui n'avait certes rien de royal. Un peu d'émotion, tout de même, les envahit à l'aspect de ce livre que la reine avait touché en des jours si tragiques, que ses yeux rougis de larmes avaient regardé. Et ils n'osaient le prendre et le fouiller, comme s'ils avaient eu l'impression d'un sacrilège.
« Voyons, monsieur Botrelet, c'est une tâche qui vous incombe !»
Il prit le livre d'un geste anxieux. La description correspondait bien à celle que l'auteur de la brochure en avait donnée. D'abord, une couverture de parchemin, parchemin sali, noirci, usé par place, et au-dessous, la vraie reliure, en cuir rigide. Avec quel frisson Botrelet s'enquit de la poche dissimulée. Était-ce une fable? Ou bien retrouverait-il encore le document écrit par Louis XVI et légué par la reine à son ami fervent? À la première page, sur la partie supérieure du livre, pas de cachette. Rien.
Rien!
Mais à la dernière page, ayant un peu forcé l'ouverture du livre, il vit tout de suite que le parchemin se décollait de la reliure. Il glissa les doigts. Quelque chose, oui, il sentit quelque chose. Un papier.
Oh, voilà. Est-ce possible?
Vite, vite! Qu'attendez-vous?
Eh bien, lisez. Il y a des mots à l'encre rouge. Tenez, on dirait du sang. Du sang tout pâle. Ah, lisez donc!
Il lut. À vous, Fersen, pour mon fils, 16 octobre 1793, Marie-Antoinette. Et soudain, Botrelet poussa une exclamation de stupeur. Sous la signature de la reine, il y avait, à l'encre noire, deux mots soulignés d'un paraphe, deux mots, Arsène Lupin. Tous, chacun à son tour, ils saisirent la feuille, et le même cri s'échappait aussitôt.
Marie-Antoinette, Arsène Lupin ?
Marie-Antoinette, Arsène Lupin ?
Marie-Antoinette, Arsène Lupin ?
Marie-Antoinette, Arsène Lupin !
Un silence les réunit. Cette double signature, ces deux noms accouplés, découverts au fond du livre d'heures, cette relique où dormait, depuis plus d'un siècle, l'appel désespéré de la pauvre reine, cette date horrible, le 16 octobre 1793, jour où tomba la tête royale, tout cela était d'un tragique morne et déconcertant.
« Arsène Lupin !»
balbutia l'une des voix, soulignant ainsi ce qu'il y avait d'effarant à voir ce nom diabolique au bas de la feuille sacrée.
« Oui, Arsène Lupin, l'ami de la reine n'a pas su comprendre l'appel désespéré de la mourante. Il a vécu avec le souvenir que lui avait envoyé celle qu'il aimait, et il n'a pas deviné la raison de ce souvenir. Lupin a tout découvert, lui, et il a pris... »«
Il a pris quoi ?»«
Le document, parbleu, le document écrit par Louis XVI, et c'est cela que j'ai tenu entre mes mains. » Même apparence, même configuration, même cachet rouge. Je comprends pourquoi Lupin n'a pas voulu me laisser un document dont je pouvais tirer parti par le seul examen du papier, des cachets, etc.
Et alors ?
Et alors ? Puisque le document dont je connais le texte est authentique, puisque j'ai vu la trace des cachets rouges, puisque Marie-Antoinette elle-même certifie, par ce mot de sa main, que tout le récit de la brochure reproduite par M. Massiban est authentique, puisqu'il existe vraiment un problème historique de l'aiguille creuse. Je suis sûr de réussir.
Comment ? Authentique ou non, le document, si vous ne parvenez pas à le déchiffrer, ne sert à rien, puisque Louis XVI a détruit le livre qui en donnait l'explication.
Ah oui, mais l'autre exemplaire, arraché aux flammes par le capitaine des gardes du roi Louis XIV, n'a pas été détruit.
Qu'en savez-vous ?
Prouvez le contraire.
Botrelet se tut, puis lentement, les yeux clos, comme s'il cherchait à préciser et à résumer sa pensée, il prononça « Possesseur du secret, le capitaine des gardes commence par en livrer des parcelles dans le journal que retrouve son arrière-petit-fils. Puis le silence. Le mot de l'énigme,
il ne le donne pas. Pourquoi ? Parce que la tentation d'user du secret s'infiltre peu à peu en lui et qu'il y succombe. La preuve ? Son assassinat. La preuve ? Le magnifique joyau découvert sur lui et que, indubitablement, il avait tiré de tels trésors royaux dont la cachette, inconnue de tous, constitue précisément le mystère de l'aiguille creuse. Lupin me l'a laissé entendre. Lupin ne mentait pas.
De sorte, Beautrelet, que vous concluez ?
Je conclus qu'il faut faire autour de cette histoire le plus de publicité possible et qu'on sache par tous les journaux que nous recherchons un livre intitulé « Le traité de l'aiguille ». Peut-être le dénichera-t-on au fond de quelques bibliothèques de province. Tout de suite, la note fut rédigée. Et tout de suite, sans même attendre qu'elle pût produire un résultat, Beautrelet se mit à l'œuvre.